Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, quelques destinations pour préparer les vacances d'été en compagnie de Sandrine Mercier, de David Habitant et d'Erwan Taillard. Des destinations en France, en ville ou en pleine nature. Notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette gourmande à partager. Et les journalistes Julien Bisson et Christy Lapellé-Douel vous conseilleront des livres pour accompagner votre week-end. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Dans votre chronique philo ce matin, il sera question de la magie du cinéma.
Et oui, parce que le Festival de Cannes se termine demain, on attend le palmarès avec impatience, et du coup, question, à quoi tient la magie du cinéma?
Et rassurez-vous, vous retrouverez la semaine prochaine notre ami du vendredi, Guillemette Odessino, qui sera rentré du Festival de Cannes. Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui préfère que je la tutoie tout au long de l'émission? Quel est le menu de ta chronique sexe en fin d'émission?
Et bien, puisqu'on va voyager pendant toute l'émission, on va aussi voir si le sexe permet de voyager. On va parler du tableau de chasse.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Notre chef du vendredi, vous publiez Partage, 70 recettes simples et conviviales aux éditions de La Martinière. Quelles recettes allons-nous partager ou déguster en solo ce week-end? Solo, ça va faire beaucoup, je crois.
Alors en solo, c'est peut-être beaucoup. On peut en faire plusieurs individuels et inviter nos amis autour pour partager. Donc, on va faire une tarte meringuée aux framboises avec une pâte sucrée au basilic.
Et une question de Claire de Boulogne-Billancourt. Au secours, je rate systématiquement ma crème anglaise et je n'ose donc plus faire d'île flottante. Alors, comment aider Claire dans sa détresse culinaire?
Alors, écoutez, c'est dingue parce que moi, je connais aussi une Claire qui a beaucoup de soucis en pâtisserie, en cuisine. C'est peut-être la même.
Notre réalisatrice.
Ah, c'est ça oui. Déjà, il faut qu'elle respecte dans ce cas-là les ingrédients et les durées. Hein. Mais généralement, un des premiers problèmes sur la crème anglaise, ça va être la cuisson des jaunes d'œufs. Donc, il faut faire très doucement, idéalement au bain-marie, si on a un doute. Ou alors, on va...
Très doucement, ça veut dire à combien de degrés?
Ça veut dire à feu très très doux. Il faut absolument pas que nos jaunes coagulent. Donc, on va mettre progressivement notre lait dedans et on va remuer en permanence, sortir du feu, remettre sur le feu, de manière à ce que ça s'épaississe, mais que ça ne coagule pas. En fait, c'est juste le petit secret de la crème anglaise, c'est vraiment de le faire avec modération, pas à feu pleine puissance.
Et si on a un thermomètre, comment on mesure la température de cette crème anglaise?
Alors, en réalité, même sans thermomètre, on peut se rendre compte d'un élément qui est assez simple, c'est quand on commence à avoir les premier frémissement, c'est qu'on dépasse les 70-80 degrés. Quand on commence à bouillir, on est à 100 degrés. Donc évidemment, la crème anglaise, il est hors de question d'arriver à ça. On veut être sur du 60 degrés à peu près, de manière à ce qu'elle s'épaississe tranquillement.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Fringant, rédacteur en chef du 1 Hebdo, qui ne rate jamais sa crème anglaise. Hein.
Jamais. C'est une maxime personnelle.
Et on peut retrouver en kiosque le 1 des libraires, c'est ça?
Oui, le 1 des libraires, spécial sur les chemins de l'exil de Homer à Leclésio.
Bonjour Christy Lapellé-Douel.
Bonjour Ali.
Co-autrice de la revue Grand Bien vous fasse, le troisième numéro est sorti mercredi dernier, ainsi qu'une version poche chez Pocket. Quel sens donner à sa vie? C'est le titre, avec de très belles signatures.
Hein. Oui, dont Frédéric Lenoir, Laurence de Villers, Charles Pépin, Alberto Manguel, qui donne rarement des interviews, et voilà,
la
dessinatrice qui a accepté de répondre à nos questions, ce qu'elle ne fait pas très souvent non plus d'ailleurs, et accepté de nous confier aussi des dessins, ce qui me permet de vous dire à quel point aussi ce numéro est beau, illustré avec vraiment des choses tout à fait exceptionnelles et voilà, et donc on en est très fiers. Enfin moi personnellement j'en suis assez fier.
Allez, on commence avec vous, place au livre à déguster ce week-end. Alors, Christy Lapellé-Douel, on commence avec l'anti-livre de développement personnel par excellence, mais dont la noirceur et l'humour sombre font du bien. Il s'agit de Microfiction 2022, la troisième moisson des micro-nouvelles de l'écrivain que j'affectionne, Régis Geoffrey. C'est un diamant noir, hein,
alors, c'est un diamant noir et ami de l'émission, d'ailleurs, au passage. Les micro-fictions, il a commencé cet exercice, Régis Geoffrey, depuis 2009, quand même, hein. Donc, régulièrement, il donne une livraison. En 2018, il a reçu le prix Goncourt de la nouvelle pour cet opus. Et, alors. Que fait-il? Tout simplement, tous les matins, il y a un certain nombre d'écrivains qui font ça, mais il écrit une nouvelle, une page. Voilà. Et ce qui lui vient à l'esprit, il ne prépare rien, en tout cas c'est ce qu'il avait expliqué, il ne prépare absolument rien, c'est ce qui lui vient. Alors là, la livraison, quand même 1000 pages hein, de cette année, il en a écrit une partie, une grande partie pendant le confinement. Eh bien, je ne sais pas, mais ça se sent, ça se lit et ça se sent. Et on sent qu'il voilà, il en a eu assez, il n'en pouvait plus. Alors le résultat est absolument, comment dire, c'est vengeur, voilà. Je ne peux pas trouver de meilleur terme. Il nous venge d'un certain nombre de choses. La nécessité de désinfecter, le masque. Et alors, il arrive à faire des choses, mais incroyables, tellement noires et en même temps tellement drôles. C'est au paroxysme. Et il ne se refuse rien. Il ne s'interdit rien. Donc, évidemment, on se frotte les mains.
C'est une, deux pages à chaque fois.
Oui, une page et un petit quelque chose, quoi. Même à peine une page et demie, ce sont à chaque fois des petits bijoux. Alors, je vous donne deux exemples. Il y a une nouvelle que je trouve formidable qui s'appelle Le prix du sang. Et on sent qu'il avait quelque chose à régler avec son éditeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Gallimard. Je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Mais en tout cas, il raconte que un auteur est convoqué chez son éditeur. Ça commence comme ça, je vous en lirai une phrase. Et on lui annonce quand même une très mauvaise nouvelle, c'est qu'il va être, alors je vous le lis, mon éditeur m'a convoqué vendredi pour m'annoncer que j'allais mourir dans les prochains jours pour des raisons commerciales. Voilà, alors tout simplement, les auteurs qui n'ont pas vendu suffisamment sont convoqués par le comité éditorial qui décide si oui ou non, ils ont le droit de continuer à vivre ou pas. Voilà, donc ça c'est vraiment typique de l'humour de Geoffrey. Et une autre petite nouvelle formidable qui s'appelle « Finir assisté et ruineux ». Et là, c'est directement le confinement. « Nous portons tous le masque à la maison, jour et nuit. Et nous arrosons et nous désinfectons à l'eau de Javel dès que nous avons fini d'aérer la pièce. » Voilà, donc en quelques lignes. Et tout est
Ces micro-fictions me font penser au cahier de Cioran. Il faut en savourer quelques pages les jours et laisser décanter en soi. Faut pas en lire 40 d'un coup, quoi.
Ah, mais ça n'a pas d'intérêt d'en lire 40 d'un coup, parce qu'il faut savourer aussi le style de Geoffrey, qui est absolument impeccable, ciselé, enfin, c'est merveilleux, c'est une gravure, quoi. Donc non, une de temps en temps,
c'est
1000
très noir,
pages.
Quand même.
C'est très noir et c'est très drôle. 1000 pages, on a le temps de pouvoir picorer une de temps en temps. Moi, je trouve ça absolument roboratif, vengeur et extrêmement tonique.
Julien Buisson, sur les micro-fictions de Régis Geoffrey.
Ben, c'est vrai que c'est des micro-fictions qui sont égrenées depuis maintenant, je pense, une quinzaine d'années à peu près.
Oui, 2009.
Et qui nous permettent avec lui d'accompagner cette espèce de grande humanité. C'est pas la comédie humaine de Balzac, mais il y a un petit peu de cela. C'est la comédie inhumaine, je dirais presque, ces micro-fictions de Régis Geoffrey.
Oui, et puis exagéré, quoi. Tout est exagéré, donc c'est formidable.
Et c'est publié chez Gallimard. Julien Buisson, grâce à vous, j'ai acheté Blackwater. C'est une série de livres de Michael McDowell. Et c'est publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Oui, j'ai un vrai coup de cœur pour cette série de romans qui renoue avec le genre un peu désuet du feuilleton littéraire et qu'on découvre aujourd'hui grâce à ces toujours excellentes éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture qui sont spécialistes pépites disparues ou encore jamais parues en France. Et alors, c'est le cas de cette série de 6 romans dont le quatrième vient tout juste de paraître. Ils en font paraître un volet toutes les 2 semaines jusqu'au 17 juin. Et donc le quatrième vient tout juste de paraître. Vous allez avoir bientôt la fin avant l'été. C'est signé Michael McDowell, qui est un écrivain américain dont j'ignorais totalement le nom, mais décédé en 1999 et dont le plus célèbre fait d'armes jusque-là était d'avoir signé pour le cinéma le scénario du film Beetlejuice, le film de Tim Burton, et avec qui il avait d'ailleurs aussi collaboré pour L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors avec Blackwater, on n'est pas tout à fait dans le monde fantasmagorique de ces deux films. On est, puisque la série débute en 1919, on est à Pâques, quand la crue de la rivière Blackwater submerge une petite ville du nord de l'Alabama. Elle amène avec elle catastrophe, désolation bien sûr, mais elle amène aussi une mystérieuse étrangère, une jeune femme du nom d'Elinor, qui va peu à peu s'acoquiner avec la famille Casquet, qui est la famille qui structure un peu tout le roman, qui sont de riches propriétaires blancs de la région, sans qu'on comprenne bien au départ quelles sont les intentions de cette femme qui arrive dans cette espèce de nid de vipère qu'est la famille Casquet. Alors c'est le point de départ, voilà, cette crue d'une saga familiale qui est vénéneuse, qui est empreinte de fantastique quand même, avec une légère touche d'horreur. L'éditeur, quand aussi le présent de sa saga fait référence à Stephen King. Alors, il se trouve que ce n'est pas tout à fait innocent. Stephen King lui-même adorait visiblement Michael McDowell. Il avait au point de déclarer qu'il était le meilleur auteur de livres de poche aux États-Unis. Il devait se connaître. Mais au-delà de la référence à King, qui peut attirer certaines personnes mais en rebuter d'autres, c'est pas exactement non plus un roman à la King. C'est plutôt une saga où il est question de matriarcat, il est question de lutte des classes, il est question de racisme systémique, de dégâts écologiques, donc tout cela dans un roman qui a presque 30 ans. Et le tout est enrobé, alors les éditions Monsieur Toussaint Louverture font toujours des très belles, c'est toujours des très beaux objets, des très beaux livres, ça ne ressemble à aucune autre maison d'édition, et là c'est enrobé dans des couvertures qui sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres, toutes travaillées, toutes différentes, truffées de dorures et qui font un peu penser, vous savez, aux anciens volumes de la maison Hetzel, avec véritablement un travail sur le moindre détail de la couverture. Voilà, c'est 6 tomes, c'est au format poche, c'est aussi au prix poche, et ça paraît, donc je disais, toutes les 2 semaines jusqu'au 17 juin. C'est la saga à ne pas rater pour quitter un peu les écrans et frissonner avant l'été.
La saga Blackwater de Michael McDowell, c'est publié au format poche chez Monsieur Toussaint Louverture. Christina.
Oh, j'acquiesce à tout ce que vient de dire Julien et je veux juste rebondir sur les couvertures. En effet, alors, je ne sais pas, peut-être Julien le sais-tu, si les couvertures sont une reprise de l'édition ancienne ou si ce sont des couvertures originales. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont absolument incroyables.
Je
elles sont en relief,
originales,
en relief, elles sont argentées, c'est remarquable.
Alors, Christina, vous avez la parole, gardez-la. Vous nous proposez un voyage immobile, un récit littéraire de la scénariste et réalisatrice Yael Kojo-Goldberg, qui publie Le Lac Magique au Seuil.
Oui, alors vous l'avez dit, elle est scénariste, réalisatrice aussi. Et avec son mari et ses enfants, ses 2 filles, il y a quelques années, ils ont décidé de partir vivre une année entière au Canada. Et ce séjour, donc, destiné à faire une pause, à réfléchir, à permettre de prendre de la distance avec la vie quotidienne, commence par un séjour au bord d'un lac, dans la forêt canadienne, pas très loin d'ailleurs de ce que j'ai compris de Montréal. Et ce village, au bord du lac, il y a une tradition, les femmes qui habitent dans le village vont tous les matins se baigner ensemble, au bord d'un lac, cachées. D'ailleurs, elle a juré, elle le dit au début du livre, ça c'est assez charmant, qu'elle ne donnera jamais l'itinéraire pour aller jusqu'au lac. Et donc ce lac est réservé aux femmes, elles y vont, elles se baignent toutes ensemble, elles se baignent nues, il n'y a personne d'autre. Et elle, le matin est dédiée à cette baignade. Alors au début, l'autrice, est un petit peu sur ses gardes. Elle est pas très à l'aise avec son corps, pas très à l'aise avec la nudité. Elle arrive de France avec une espèce de manteau qui pèse très lourd, d'inhibition, de problèmes familiaux pas réglés, de doutes sur elle-même. Et puis au fur et à mesure que jour après jour, elle va suivre ces femmes et aller nager, il se passe quelque chose, une transformation, une métamorphose. Peu à peu, elle laisse tomber vraiment son ancien moi et elle renaît en nageant dans cette eau dont elle dit elle-même dans le texte que c'est une eau comme de la soie, douce comme de la soie. Et les relations entre toutes ces femmes de tous âges, de tout genre physique, peu à peu lui permettent vraiment de sortir de ce qui la ligotait jusqu'à maintenant, et en particulier les relations avec ses parents, ses propres parents. Et elle découvre aussi qu'elle est une mère qui peut enfin laisser ses enfants. Elle peut s'autoriser à vivre autre chose, ce n'est pas pour autant qu'elle les abandonne. Alors il y a toute son histoire personnelle évidemment qui est derrière. Je vous laisserai le soin de le découvrir, mais en tout cas c'est un récit qui est juste, qui est remarquablement bien écrit, qui est intelligent et je pense qu'il touche énormément, qui va toucher beaucoup de femmes. Alors évidemment, tout le monde ne va pas au Canada nager dans de l'eau aussi pure, mais le lien avec les autres femmes permet d'arriver à se rencontrer soi-même.
Je sens que Maya a très envie d'y aller.
Alors moi, je suis plongée dans l'utopie totale quand j'écoute Christina nous parler, mais ça me fait penser, il y a quelques années, aux agences pour femmes seules, pour voyager ensemble, qui s'étaient créées.
Oui, mais là, elles y vont ensemble.
Le lac magique de Yaël Kojo-Goldberg, c'est publié au Seuil et les choix de Julien et de Chrysilla sont à retrouver sur l'appli et sur le site de France Inter. Alors tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Pouc-Jalaguet avec l'aide d'Alice Galtier et de Luna Jamais. La réalisation a été signée Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique cette semaine Benjamin Troncin, Adèle Caglar et Sybille Clamence. Et on écoute Julien Clerc, la Californie. Julien Clerc, la Californie.
Alors allons-y franchement, hôtel des voyageurs.
Grand bien vous fasse.
Les Galapagos, les Aléoutiennes, je leur en fous, moi, des voyages.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, loisirs et des idées de destination en France pour cet été. Et nous accueillons avec plaisir Sandrine Mercier. Bonjour Sandrine.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À toutes.
Rédactrice en chef de la revue AR, consacrée ce printemps à la Croatie, hein.
C'est bien ça, la Croatie, oh oui, ça c'est la couve. Mais on va aussi dans le Sancerrois, on va faire du kayak aussi sur la Loire pour faire des micro-aventures. On va aussi en Irlande, sur une autre petite île qui s'appelle l'île d'Achille, entre parenthèses.
Bonjour Erwan Taillard.
Bonjour.
Vous avez coordonné le livre « 100 pépites pour découvrir la France en une heure, une journée ou un week-end » et c'est publié chez Grund. Les pépites de France est un compte Instagram qui compte aujourd'hui plus de 740 000 abonnés, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Racontez-nous ce compte, les pépites de France, comment c'est né ?
Alors comment c'est né ? C'est né il y a 3 ans en fait, enfin même avant ça, j'aimais beaucoup le tourisme en France depuis que j'ai 12 ans.
Et pourquoi ?
Eh bien, je sais pas justement, je ne sais pas du tout, mais je suis amené à faire des communautés, des grosses communautés sur des pages Facebook, et je me suis dit en fait tout simplement que en fait en France il y a tellement de choses bien à voir que je me suis dit pourquoi pas le partager au plus grand nombre d'entre nous, et donc voilà.
Et ça a donné naissance à ce beau livre. Bonjour David Habitant.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédacteur en chef du site Théma.archi, Théma c'est T-E-M-A. Rappelez-nous la philosophie de Théma.archi.
Mais écoutez, Théma.archi, c'est un magazine qui cherche à diffuser un peu la culture architecturale. Donc on parle d'à peu près tout, de tous les sujets du moment, mais on essaye de les traiter à travers l'angle du patrimoine qui nous entoure, des bâtiments, de la ville, de tout ce que ça nous raconte.
Et vous défendez le concept de tourisme gratuit avec vous. Ce matin, on va voyager pour pas cher. Hein.
Effectivement, l'idée c'est de voyager pour pas cher, mais pas inintéressant pour autant. Il y a tellement de choses à voir en fait quand on se balade dans les villes tout autour de nous. La ville en elle-même, c'est toujours une espèce de musée à ciel ouvert qui peut nous raconter tout un tas de choses, et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous montrer à travers quelques exemples.
J'ai une question pour Sandrine Mercier. Cet été, les Français vont à nouveau beaucoup voyager en France, non plus à cause de la pandémie, mais pour des questions de pouvoir d'achat un peu en berne, Sandrine.
Ben c'est vrai que c'est l'occasion quand même de découvrir son territoire à moindre coût, en tout cas au moins pour le déplacement. Surtout si on prend le train, c'est quand même plus écolo, c'est encore mieux. Sinon, puisqu'on parlait des villes, là, j'entendais, moi, j'avais envie de faire redécouvrir, peut-être d'explorer Paris, avec justement le site exploreparis.com. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
Ça mérite d'être encore plus connu parce que ça englobe aussi le 92, le 93 et le 94. Et de cette manière, on va découvrir tout ce Grand Paris, mais d'une manière totalement insolite. Mais alors, loin des sites classiques où il faut faire la queue, pas du tout. On va pas à la Tour Eiffel, on va pas voir le Louvre. Mais avec exploreparis.com, on va vraiment découvrir des pépites, des rencontres avec des habitants, des parcours très, très originaux. Alors, j'ai regardé, par exemple, pour vous, ce que vous pourriez imaginer. Par exemple, la basilique Saint-Denis. Bon, ça, c'est bien. Mais sur le site d'Explore Paris, on peut finir la visite avec un atelier de taille de pierre, parce qu'ils sont en train de rénover la flèche. Et du coup, ils proposent un atelier à la fin de la visite. Comme ça, on se met dans la peau d'un tailleur de pierre de l'époque. Et ben, on découvre en même temps ce savoir-faire en vrai, quoi, en mettant les mains à la pâte.
Je vois bien Julien Bisson, tailleur de pierre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une image là en tête.
Et dans le 93, on peut aussi visiter les coulisses du Stade de France, par exemple. Et cette offre a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Sinon, dans le 94, on va rester dans le Val-de-Marne, on peut visiter une centrale béton. Qui se trouve au port du...
Vous savez nous faire rêver, Sandrine Mercier.
Ça vous a jamais traversé l'esprit?
Non, pas du tout.
Et pourtant, on a envie de comprendre ce paysage industriel comme ça au bord de la Seine. Et ben, hop, sur exploreparis.com, c'est possible.
Rappelez-nous ce que c'est. Rappelez-nous ce que c'est. Vous allez trop vite, Sandrine Mercier. Rappelez-nous ce lieu.
Le site, c'est une centrale à béton qui est au port d'Ivry. Vous savez, quand on se balade, là, il y a tout un paysage industriel qui est au bord de Seine. Et ben là, on peut rentrer dans le paysage, je dirais, en découvrant de l'intérieur comment fonctionne une centrale à béton.
Vous saviez pas, Christina, comment ça fonctionne?
Ah non, alors j'avoue ma totale ignorance en matière de centrale à béton, mais je sens que je vais faire une séance de rattrapage.
David Habitant.
Non mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, les centrales à béton, c'est vraiment les seules industries qu'on est... Ça vous fait rire, mais oui, je vous assure que c'est hyper intéressant. C'est les seules industries qu'on est obligé d'avoir partout aux portes des villes, parce que le béton, en fait, il faut forcément le produire à proximité des lieux où on construit, donc effectivement, du côté d'Ivry ou de l'autre côté de Paris, plus du côté des Hauts-de-Seine, on a des centrales à béton à la porte de la ville, effectivement.
Sandrine.
Mais comme je vous connais, vous êtes plus bucolique, je vous propose des balades en canoë plutôt, alors sur la Marne, si vous voulez rester sur l'eau. Et toujours dans exploreparis.com, on peut en même temps visiter un atelier qui restaure des anciens bateaux. Il y a tout ça au bord de la Marne. Alors c'est vraiment fait pour des gens curieux, comme Christina disait, elle n'avait pas eu cette idée, mais ça nous permet de redécouvrir notre territoire. C'est fait aussi bien pour les Parisiens que pour les Franciliens, que même tous les provinciaux qui vont venir en vacances. Ça leur donnera vraiment des tas d'idées incroyables de découvertes. Et j'ai vu aussi, alors tenez-vous bien, je suis tombée sur un circuit de l'association Anticor. Vous savez, l'association Anticorruption.
Oui.
Et ben, ils proposent de visiter la capitale sur le thème de la corruption.
Écoutez, ça, c'est original.
On sort des sentiers battus, quoi. C'est très, très original. Et il y a toutes ces pépites sur ce site. Alors, vous inscrivez sur le site exploreparis.com et tous les mercredis, vous recevrez toutes les nouvelles offres. Alors, des fois, c'est gratuit. Des fois, ça coûte 5 euros, des fois, ça peut coûter 15 euros.
Bon, ben, merci Sandrine pour ce conseil. Alors, David Habitant, pourquoi aller à Leucat cet été, Leucat dans l'Hérault? C'est une architecture qu'on redécouvre. Hein.
Oui, effectivement, il y a un truc un petit peu sur l'architecture de vacances des années 60-70. Plus largement sur l'architecture des années 70, mais j'aurais tant à en dire. D'ailleurs, on parlait du Val-de-Marne à l'instant. Je me suis retenu de pas crier le nom de Créteil, cette ville incroyable avec tout un quartier des années 70 qui est assez magnifique. Mais c'est pas la question. On parle de Leucat parce que on peut y partir pour l'été, on peut même y partir là pour le long week-end qui nous attend. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais évoqué la ville de La Grande Motte, qui est pas très très loin de Leucat, qui prend place dans le cadre de ce qu'on appelle la mission Racine. On avait évoqué ça ensemble, c'est un grand plan du gouvernement de la fin des années 60 qui cherchait à rendre touristique le littoral du Languedoc-Roussillon.
Pour concurrencer le tourisme de masse en Espagne.
Qui allait vers l'Espagne, voilà, effectivement. Alors, La Grande Motte, il se trouve que c'est une ville très spécifique avec des architectures très extravagantes, mais il y a d'autres stations balnéaires qui viennent de cette même mission Racine et qui sont peut-être un petit peu plus conventionnelles dans leur forme, mais tout de même assez passionnante lorsqu'on s'y intéresse. Et c'est le cas de Leucat, donc cet ancien village de pêcheurs qui s'est agrandi à ce moment-là en prenant un petit peu sur la mer. On parle désormais de la station de Port Leucat, qui voisine d'ailleurs avec la station de Port Barcarès, qui est construite sur le même modèle. Il se trouve que les deux villes partagent également quelques bâtiments d'un architecte grec qui s'appelle Georges Candilis. Il est bien connu du mouvement moderne. Son truc à lui, c'est vraiment la répétition. C'est-à-dire que ces bâtiments, ils sont souvent conçus à partir d'un module unique qui est comme ça multiplié des dizaines de fois. Il s'inspire des cellules de l'organisme, comme un organisme vivant avec des cellules qui se répètent à l'infini pour former un tout. Et ben, c'est pareil avec les bâtiments de Georges Candilis. Par exemple, à Leucat, on peut aller visiter une résidence qui s'appelle L'Écara. C'est un village vacances. Je ne sais plus quelle est l'entreprise aujourd'hui qui s'occupe de ce village vacances, mais voilà, on peut réserver ses vacances dans un de ces bâtiments de Georges Candilis. C'est comme un petit, c'est vraiment entre la pure tradition du village grec, même par la couleur blanche, par les toitures plates, et puis d'un autre côté c'est vraiment la modernité absolue par ce processus constructif qui est très économique, qui permet de construire pour le plus grand nombre, parce que c'est ça l'idée de la mission Racine, c'est de faire les vacances pour tous. C'est dans la pure tradition des années 60-70.
Je sens, David Habitant, que vous avez convaincu Grégory Cohen d'aller à Leucat.
De découvrir, parce que l'enthousiasme de David m'a complètement transporté.
Vous y seriez pas allé comme ça?
Alors, spontanément, non, mais d'un seul coup, quand il commence à m'amener un peu de graisse à Leucat, avec cette couleur, cet espace, cette liberté, cette respiration, ça donne envie.
Alors, je ne sais pas si vous iriez spontanément à Montluçon, sous-préfecture de l'Allier, une ville assez méconnue que vous avez également choisie, David.
Ouais, alors là, c'est tout un autre, vraiment, c'est un autre genre, mais c'est toujours aussi dans cette idée de contraste. Montluçon, c'est un petit village médiéval, hein. Je parle pas de la ville telle qu'elle s'étend depuis plus d'un siècle, mais disons qu'on a vraiment le cœur de la ville de Montluçon qui se voit, c'est une petite colline comme ça qui est immanquable. On voit bien la différence entre le centre historique et le reste. Mais au milieu de ce petit village médiéval, là encore, on a un bâtiment assez magique qui me fascine plutôt. Et j'ai presque envie de vous parler de Montluçon uniquement pour ce bâtiment-là. C'est le MUPOP, le Musée des Musiques Populaires. C'est un bâtiment... déjà, le musée en lui-même est très intéressant. Ça nous raconte toute l'histoire de la musique, des instruments de musique. Il y a des expositions temporaires assez chouettes. Il y en avait une sur Paul Naref l'autre fois. C'était vraiment fascinant, mais... c'est pas le propos aujourd'hui, je voulais juste vous parler du bâtiment. On est dans un bâtiment très contemporain, c'est l'architecte Philippe Tixier qui l'a conçu il y a seulement quelques années. Et en fait, il y a tout un tas de codes qui vont permettre d'intégrer ce bâtiment très récent, un bâtiment, on comprend qu'il est absolument d'aujourd'hui, au sein d'un tissu très moyenâgeux. Alors, ça va reprendre un petit peu les volumes, par exemple, mais sauf que au lieu d'avoir des volumes de pierre, là, c'est des volumes avec un bardage métallique, donc tout à fait moderne. Ça va reprendre comme ça quelques codes de l'architecture moyenâgeuse qui est juste à côté, mais en l'adaptant avec les techniques de l'architecture contemporaine.
Grégory, Leucat, Montluçon,
le MUMUPOP en plus, le musée des musiques populaires, ça fait voyager, hein, rien que ce nom, ça fait voyager, ça donne le sourire, donc évidemment, pourquoi pas à Montluçon, à Montluçon, partout où vous voulez.
Erwan Taillard, vous nous invitez à découvrir le marais de Bourges. C'est pour vous l'une des belles surprises que nous réserve la capitale du Berry.
Exactement. Bah, alors moi, de base, j'habite Bourges depuis 2-3 ans et c'est pourquoi j'ai
voulu le mettre... Ah, je ne savais pas, vous voyez, je l'ai choisi au hasard.
Voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le livre, parce que c'est encore... Enfin, c'est hyper méconnu en France. On connaît, du coup, pour le coup, les marais poitevins, mais qui est beaucoup plus grand, étant donné que c'est sur 3 départements. Et là, c'est uniquement dans la ville de Bourges. Et franchement, c'est...
Qu'est-ce que vous aimez là-bas? Ouais.
La tranquillité. Alors moi, j'ai un mari à Bourges, donc j'y vais très souvent pour travailler, etc. Sachant que bon, c'est un lieu vraiment exceptionnel, en plein cœur de ville. On quitte le marais, on est directement dans le centre historique de Bourges, quoi.
Et s'il y a trop de monde, parce que c'est vrai que l'été, il y a des lieux vacances qui sont surinvestis. Est-ce que le marais de Bourges relativement calme l'été?
Justement, c'est hyper calme l'été, et je pense que c'est vraiment une pépite à faire découvrir aux gens qui sont en France, ou même qui sont de passage pour aller dans le sud ou dans le nord. Étant donné que, ouais, enfin, pour moi, c'est un des lieux qui me marque le plus, qui m'a marqué le plus en France.
Alors, il ne faut pas repartir sans avoir
pris une plate et avoir fait les
tours. C'est quoi une plate?
C'est un bateau où, grosso modo, il y a un bâton, on va au fond on plante le bâton au fond des canaux, et on se balade à travers tous les canaux, et comme ça, ça permet de vraiment tout découvrir, quoi.
David, vous êtes amateur également.
Mais oui, mais il y a toujours ce truc quand on a un coin comme ça, un petit peu magique aussi, justement, parce que par le fait qu'il est très peu fréquenté, un peu secret, on hésite, hein, à en parler à la radio, parce qu'on se dit, il faudrait pas non plus qu'il y ait trop de nos auditeurs qui aillent jeter un œil, et en même temps, on ne peut que les invité à aller voir ça. Ce qui est incroyable, vous le disiez à l'instant, c'est vraiment la proximité entre la ville, parfois qui peut vraiment être, c'est une vraie ville, Bourges, à certaines heures, le week-end, il peut y avoir plein de mouvements, et puis juste à côté, on traverse 3 rues et on se retrouve au milieu de absolument rien. Et vous le disiez, vous avez un marais, c'est une grande chance. Certaines personnes de Bourges, effectivement, ont leur petite parcelle, donc accessible uniquement à travers le bateau dont vous venez de donner le nom.
Il y a aussi des parcelles. Il n'y a pas besoin de prendre le bateau. Mais on va dire que 70% des parcelles sont accessibles uniquement en plate.
Donc imaginez bien la tranquillité du lieu, c'est assez incroyable, effectivement.
Qui connaît autour de la table?
Moi, je connais le paddle, alors c'est peut-être une sorte de différent, mais pourquoi pas, la plate, avec plaisir.
Sandrine Mercier, une autre idée de destination pour cet été?
Oui, alors un endroit où il ne devrait pas y avoir trop de monde. J'ai vu que le 3 juin, là, c'est la journée mondiale du vélo. Donc j'avais envie de vous donner des idées pour pédaler sur de drôles de pistes. Et là, on pourrait aller dans les Flandres. On traverse juste un peu la frontière pour aller en Belgique, dans les Flandres. Et parce que dans la région du Limbourg, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà pédalé dans les arbres.
Non, jamais, non, pas encore.
et ben voilà, c'est exceptionnel. On peut le faire dans cette région du Limbourg. On fait vraiment pas du vélo comme tout le monde. Il y a vraiment des originaux là-bas. Ils ont imaginé une piste cyclable dans les arbres. On est dans la forêt de Bosland. Alors, ils ont créé comme ça 2 cercles avec une rampe d'accès. Et comme ça, on accède, on monte pratiquement à 10 mètres, hein, au milieu des arbres. Et comme ça, on circule au milieu des branches, on entend les oiseaux, on n'a pas le vertige, on regarde pas trop à droite, à gauche, et on roule comme ça à travers les arbres. C'est de l'acrobranche à vélo. C'est vraiment insolite et c'est gratuit. Donc là, la région du Limbourg, pour vous situer quand même, on est au nord-est, hein, de la Belgique, limite Allemagne. Et toujours dans cette région, dans le Limbourg, on peut traverser aussi un étang à vélo. Alors, quand je vous dis, on fait du vélo vraiment à travers l'eau. Ils ont imaginé un truc de dingue. Vous ne mettez pas vos bottes de pluie ou une combinaison de plongée. Hein, non, non. Vous restez sur le sol sec. En fait, ils ont construit une route au milieu de l'étang, avec des hauts murs de chaque côté, je dirais, pour que vous puissiez traverser l'étang. Je ne sais pas si je suis claire.
Christina essaye de s'imaginer un petit peu, de visualiser.
Oui. J'essaye de visualiser, mais j'ai un peu de mal.
En fait, quand on roule sur cette route qu'ils ont créée au milieu de l'étang, on a la tête au niveau des canards, quoi.
D'accord.
Ouais, on voit, on a la tête juste qui dépasse et on est au niveau de l'eau. Et le corps est dans l'eau, mais avec tout un système de protection à sec. Bon, après, et comme ça, on roule et on traverse les tons et après on traverse les forêts, toujours dans le Lambourg. Voilà, après, ils ont imaginé vraiment des parcours comme ça très originaux.
Après cette incursion dans les Flandres, on revient en France, hein, David Habitant.
Allez, pourquoi pas en Bretagne
même. Voilà. Rennes.
Alors Rennes, il y a tant de choses à dire à Rennes, mais je sais que le temps est compté. Trois arrêts. D'abord la gare, parce que c'est toujours hyper intéressant de regarder les gares. Des gares, on en a toujours construit et c'est toujours des bâtiments très importants avec beaucoup de moyens. Donc la gare, c'est un marqueur d'une histoire de l'architecture. La gare de Rennes, c'est une des dernières gares qui a été conçue en France ces dernières années. Donc elle est vraiment à la pointe de ce qu'est l'architecture en 2022. Tout un tas d'enjeux, évidemment écologiques, mais aussi de confort. Je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, jetons un œil à la gare. Déjà, c'est la première étape. Deuxième étape, ça me permet d'en avoir trois. Deuxième étape, il y a un tiers-lieu que j'adore particulièrement à Rennes, qui s'appelle l'Hôtel Pasteur. C'est une ancienne fac de médecine, si je ne dis pas de bêtises, qui a été abandonnée, qui a été laissée sans aucune utilisation. Et puis il y a un collectif qui s'est monté pour proposer, tant qu'on ne sait pas quoi faire de ce bâtiment, on propose d'y faire quelques activités. Puis ces activités ont pris de l'ampleur. Et puis finalement, là où il y avait tout un tas de projets qui étaient imaginés pour ce bâtiment, eh bien on s'est dit, finalement, laissons les associations qui sont en place continuer de faire vivre ce bâtiment. Et aujourd'hui, c'est un tiers-lieu, donc un lieu culturel et social qui foisonne d'activités.
Rappelez-nous le nom.
L'Hôtel Pasteur à Rennes. Et est-ce que j'ai le temps de dire ma troisième étape, parce que c'est vraiment la meilleure et elle est diffuse sur toute la ville, c'est l'architecture de Georges Maillols. Georges Maillols, c'est un architecte qui a beaucoup conçu dans les années 60-70, spécifiquement à Rennes. Il a fait des milliers de logements à travers la ville. En même temps, c'était des bâtiments de centaines de logements déjà, donc voilà, il faut les multiplier pour arriver à ces milliers de logements-là. Il se trouve que il fait totalement corps avec son époque, Georges Maillols, puisque on est à la suite de mouvements modernes qui, vous savez, étaient peut-être un petit peu froids, un petit peu sobres. On a beaucoup critiqué le mouvement moderne. L'étape d'après, c'est le postmodernisme où on va complètement à rebours de tout ça et au contraire, on cherche à recréer des bâtiments qui ont du sens, qui ont de la décoration, qui ont des formes. Et on le retrouve aujourd'hui en se baladant dans Rennes. Je suis sûr qu'avec juste ces quelques indications finalement très abstraites, si vous allez dans Rennes et que vous levez les yeux, dès que vous allez être étonné par un bâtiment, sachez que c'est une des tours de logement de Georges Maillols. Il y en a partout à travers la ville et ça vaut vraiment le coup d'œil.
Restez avec nous après la magie des lieux, la magie du cinéma avec la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, vous revenez cette semaine sur le Festival de Cannes, dont le palmarès sera annoncé demain, et vous vous demandez à quoi tient la magie du cinéma.
Mais oui Ali, parce que s'il y a bien un festival qui célèbre la magie du cinéma depuis plus de 70 ans, c'est bien donc le Festival de Cannes. Cannes a réussi le tour de force d'être le festival de presque tous les cinémas, avec plusieurs sélections, plusieurs jurys, une grande diversité de genres et de formats. Par exemple, cette année, on a eu aussi bien le retour du blockbuster Top Gun, hors compétition, et les films assez inclassables « Coupé » et « Fumé fait tousser » de Michel Hazanavicius et de Quentin Dupieux, toujours hors compétition, mais aussi les films d'auteurs français, japonais, belges, japonais, anglais, coréens, iraniens, suédois, italiens dans la compétition, qui nous permettent donc de faire un petit tour du monde du cinéma contemporain. Question donc, pourquoi parle-t-on de cette magie du cinéma ? À quoi tient son prestige au sens strict ? Eh bien, si on prend le terme de magie au sens du tour de magie, de l'illusion, le cinéma, c'est bien une machine à fabriquer une illusion, l'illusion de la fiction. Et c'est magique parce que l'on croit à cette illusion, on croit à ce que vivent les personnages et à l'histoire qu'on nous raconte, alors qu'elle n'est qu'une fiction. On y croit si fort même qu'on pleure à la fin de Titanic quand Jack meurt noyé, alors même qu'on sait très bien que Leonardo, lui, ne meurt pas vraiment. Au cinéma, c'est pas vrai, mais on y croit et c'est pour ça que le cinéma est un formidable outil de divertissement. On quitte la réalité, on s'en détourne. La première magie donc du cinéma, c'est qu'il nous permet de nous évader de notre quotidien et de nous faire rêver. Parce que au cinéma, comme dans la magie, tout est possible.
Mais c'est ce qui fait aussi qu'on l'on reproche au cinéma de n'être que du cinéma et de tromper les spectateurs.
Oui, c'est ce qui fait que le cinéma tombe aussi sous le reproche d'être un peu une sorte de nouvel opium du peuple, d'endormir les masses avec des effets spéciaux toujours plus sophistiqués ou des histoires d'amour stéréotypées. Dès les débuts du cinéma parlant, dans les années 1930, le philosophe Walter Benjamin, par exemple, reproche au cinéma de ne fabriquer que de l'illusion et du mensonge. et de se servir des technologies de l'enregistrement et de la diffusion à grande échelle pour manipuler un peu trop facilement les émotions du public à grands coups de montage, de gros plans et de musique mélodramatique à souhait. Mais si toutes ces fictions en général et celles du cinéma en particulier jouent avec nos émotions, est-ce que c'est pas justement le signe qu'elles nous touchent ? Est-ce que c'est pas au fond ça la magie du cinéma, que la fiction qu'elle déploie nous touche et nous amène à voir le monde autrement alors même que nous sommes devant un écran ? C'est ce que pense le grand philosophe américain du cinéma, Stanley Cavell, pour qui l'écran de cinéma permet de projeter, au sens de nous mettre sous les yeux, le monde en train de se faire. Pour Cavell, le cinéma nous divertit en nous faisant voir des gens qui vivent, qui se disputent, qui se réconcilient, qui s'aiment sur de grands écrans. Sauf que, au lieu d'être une machine à illusions, ce divertissement est au contraire une excellente ressource pour nous transformer. Voir des personnages donc vivre, s'aimer, se disputer, se réconcilier ou faire converger leurs efforts pour une même cause, eh bien, c'est être témoin de la possibilité d'un changement moral et c'est une invitation à soi-même devenir meilleur. Voilà la deuxième magie du cinéma, nous faire quitter la réalité le temps d'une séance, mais pour mieux nous apprendre à ne pas passer à côté de la réalité de nos vies, voir la réalité en face même, finalement, comme l'écrivait Bergson à propos de l'objet de l'art.
Julien Bisson.
Oui, ce que dit Thibault est très important, et notamment sur le fait que la salle de cinéma elle-même permet cette immersion dans la fiction. C'est le lieu de la suspension de l'incrédulité. Et c'est pour ça que la salle obscure est véritablement le berceau dans lequel on peut profiter au plus vrai du cinéma, parce que l'immersion est totale, là où le fait de regarder un film sur un écran beaucoup plus petit, chez soi, on va être submergé de différentes sollicitations, fait que cette immersion dans la fiction devient beaucoup plus difficile. Donc c'est aussi un petit plaidoyer, je pense que c'est aussi le moment pendant ces festivals, un plaidoyer pour la salle obscure.
Christina.
Et il y a aussi une chose importante dans la salle de cinéma, c'est la présence d'autres spectateurs.
Ça dépend des autres.
Ça dépend des autres, mais c'est vrai. Mais le partage de ce qu'on est en train de regarder, de ce en quoi on est en train de croire.
Ceux qui mangent leur pop-corn, qui regardent leur téléphone oui, portable pendant
vrai.
La séance.
Ceux qui se sont mangés des vrai, merguez avant vrai, de venir au cinéma. Enfin, c'est terrible.
Mais non, mais c'est vrai, le cinéma, comme le théâtre hein, d'ailleurs, je trouve que... Ça vaut quand même le coup d'être partagé.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice à réécouter sur le site de France Inter. Après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres hein, de Grégory Cohen. Grégory Cohen, une recette gourmande à partager ce week-end. Une tarte meringuée à la framboise, très très légère.
Alors très légère, mais alors ce qui est étonnant, il y a quelques jours je suis allé dans mon potager et j'ai commencé à regarder un petit peu tous ces légumes, on a eu un temps absolument incroyable et du coup tout commence à sortir mais très très fort et j'ai eu mes premières framboises, d'où la proposition de cette
merci de partager,
tarte aux framboises. Bah oui, un petit peu par plaisir et un peu aussi par anticipation. Pour faire cette tarte aux framboises, on va avoir besoin d'une pâte sucrée. Alors la pâte sucrée, je vais la transformer un petit peu. On va la faire aux noisettes et au basilic. Pour ça, on aura besoin de 150 g de beurre pommade. Pommade, c'est-à-dire qu'on peut le prendre dans sa main et il a la consistance de la pommade. 100 g de sucre glace, 60 g de poudre de noisette, 60 g d'œufs. Un œuf, c'est-à-dire en gros à peu près, une pincée de sel, 250 g de farine et deux feuilles de basilic. J'ai réussi à me faire rire dans mes propres recettes, c'est quand même pas mal. Alors, mélangez le beurre pommade, le sucre, la poudre de noisette, ajoutez l'œuf. Une fois le mélange homogène, on intègre grossièrement la farine. Alors, on veut pas trop malaxer la farine, on veut pas trop la travailler, sinon on va avoir une pâte élastique et cette pâte, elle va être friable et c'est pas ce qu'on veut. On la malaxe juste assez pour avoir une pâte homogène, on la boule, on la met dans du film alimentaire au frais pendant 2 heures, puis après on abaisse la pâte sucrée sur 3 mm, on répartit le basilic haché finement dessus, on passe le rouleau à pâtisserie de manière à faire pénétrer le basilic dans la pâte, ensuite on fonce le moule à tarte, c'est-à-dire qu'on va mettre la tarte en gros dans un moule, on la pique légèrement sur le fond pour éviter qu'elle ne gonfle, on la réserve au frais encore 1 heure pour que la pâte se resserre, et puis après on la met à cuire. Alors plutôt à 160 degrés, c'est-à-dire pas très fort, et pendant environ 25 minutes, on verra très facilement, puisqu'il n'y a rien dessus, la coloration de la pâte, si elle commence à être un tout petit peu colorée, un peu dorée, on la retire du feu, du four, et on la laisse refroidir. Pour la meringue, on aura besoin de 5 blancs d'œufs, 250 g de sucre, un jus de citron et 15 centilitres d'eau. Alors on va mettre le sucre, l'eau, le jus de citron dans une casserole, on va cuire à 117 degrés. Alors si vous n'avez pas de thermomètre, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, on va compter environ 5 minutes après la première ébullition.
ok. Et on va avoir un petit truc en plus si on veut se rendre compte de la consistance du sucre fondu. C'est que on va prendre une fourchette, une cuillère, un couteau, et puis on va mettre une petite boule de ce sucre dans un verre d'eau. Et si elle boule tout de suite et qu'elle est un petit peu flexible, on a exactement ce qu'on veut. Dans la cuve d'un batteur, on va commencer à battre les blancs. Lorsqu'ils sont montés, on va mettre le sucre fondu en filet, en continuant de battre. L'idée, c'est de pas le mettre en une fois pour qu'il ne cuise pas les blancs, mais qu'il puisse s'incorporer tout seul. On fait tourner jusqu'à complet refroidissement de la cuve. On met en poche à douille. Si on n'a pas de poche à douille, on va utiliser un sac congélation. Et puis alors, on a besoin évidemment de framboises, environ 250 grammes de framboises fraîches. Pour le montage, c'est simple. On met la meringue dans le fond de la tarte, puis on met les framboises tête vers le bas. De manière à avoir la petite cuve de la framboise dispo. Et puis un petit truc, avec les framboises qui sont un peu gâtées, on peut faire un petit coulis qu'on va verser à l'intérieur des framboises fraîches. On décore de petites feuilles de basilic ou de menthe. Et puis ça y est, le tour est joué. C'était une recette un petit peu longue.
Faut
mais franchement,
de cuisine pour la recette. Votre recette. Oui. La recette. Oui, pardon, Thibault.
Normalement, la meringue, une tarte meringue, c'est pas au-dessus la meringue.
C'est ça. Et là, en fait, on utilise, merci Thibaut, enfin quelqu'un qui suit et qui s'intéresse à la cuisine, hein, évidemment. Ben voilà, c'est exactement ça. On la met en dessous et du coup, ça nous permet de servir de socle pour que les framboises ne bougent pas.
La recette de Grégory Cohen à retrouver sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off avec deux
F.
Dans un instant, la chronique sexe de Maïa Mazorette. Ce sera juste après Kofi qui interprète Gifted.
Level up, Spain town we original. In a Jordan, so we stepping out. Yeah, Jaja light shine for my retina. In my guide, all the steps I take. Yeah, guiding the steps I take. Whoa, young for me, grateful. Sit high for me, lay low. Balancing, me dip on the road in a quarantine. Me dip on the road in a Balenciaga. Eh, new Fenty for my Prada. Eh, yeah. Vibing, good vibes inside, yeah. Light up, don't fight it. Fire, ignite it, yeah. Oh, yeah. Eh, I'm winning. Mama, you give me the prediction, yeah, yeah, yeah. I have life, I'm blessing, yeah, 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 yeah. I'm guided and gifted, yeah. It's a new day. Might get caught up in a new wave. Shop the track up in a new ways. If it taught me, get a few plays. Spin it and fling it on back. And if I sing it, I win a gold plaque. Yeah, next year platinum that. And them can't lock me up from a dreadlock, yeah. Killing them boomer, yeah. All these blessings where I come my way. Pray to the Father, say come by, yeah. Full up my plate and broke my tray. Yeah. It's a new day. Might get caught up in a new wave. Chop the track up in a new wave. If it taught me, get a few plays. Spin it and fling it on back. And if I sing it, I win a gold plaque. Yeah, next year platinum that. And them can't lock me up from a dreadlock, yeah. Killing them boomer, yeah. All these blessings where I come my way. Pray to the Father, say come by, yeah. Full up my plate and broke my tray. Yeah. Oh.
Sophie, interprétée Gifted.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obsédé par le sexe. Grand bien vous fasse. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et il est temps de retrouver la chronique sexe de Maya Mazorette. Maya, on continue sur la thématique du voyage. Le sexe permet-il de voyager ?
Le sexe et le voyage. Quand on met ces deux mots ensemble, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'expression de tourisme sexuel. Bon, on est d'accord, c'est pas classe, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, on passe à autre chose. Pour mieux exhumer du grenier, le tableau de chasse. Rappelez-vous cette vieillerie dont on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui. Et pourtant, le tableau de chasse, c'est pas si vieux. Il y a encore 15 ans, on pouvait sortir son petit planisphère et comparer sa cartographie sexuelle avec ses amis. Ah bon, t'as jamais couché avec un Italien ? Et c'était même pas très difficile de gagner des points entre le beau correspondant allemand, la classe de langue à Londres, l'auberge espagnole indispensable pendant l'année d'Erasmus. Je peux vous dire que ma génération avait une idée très large de l'ouverture européenne. Et même quand on pouvait pas voyager, l'avantage de vivre en France, c'est que le monde venait à nous. Allez hop, un Chinois par ici, un Australien par là, emballé, c'est pesé. Et puis, puis ça s'est arrêté. Ou alors, on a arrêté d'en parler à voix haute, et c'était pas seulement à cause du Covid.
Eh bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, Maya, coucher avec quelqu'un juste pour sa nationalité, ça ne paraît plus très politiquement correct.
Ouais, et quand on entend les personnes concernées raconter comment elles ont vécu ce genre d'attention, on comprend mieux pourquoi. Entre les Asiatiques réduits pour les femmes à des soumises et pour les hommes à des anges asexués, les Noirs transformés en bêtes de sexe, les Latinos forcément caliente et les Scandinaves forcément bourrins, on se dit que c'était peut-être pas mal de passer à autre chose, d'autant que quand on est français et blanc, on se rend pas forcément compte d'à quel point ces fantasmes ethniques ou nationaux sont blessants. Nous, on est associés au libertinage et à des French lovers, même si on a la réputation d'être un peu lourdingue. Franchement, ça va, il y a pire comme comparaison. Enfin, je dis ça, mais moi j'ai passé 15 ans hors de France et ça m'est arrivé de subir ces clichés. On m'a déjà expliqué plusieurs fois qu'en tant que Française, fallait pas trop faire la fine bouche, vu que les Françaises, comme chacun sait, elles couchent avec n'importe qui. Bref, grâce au travail des militants antiracistes, le tableau de chasse n'est plus à la mode. Et je sais bien que certains vont protester, qu'on peut plus rien dire et qu'on peut plus rien faire. Mais c'est pas vrai. Personne ne nous oblige à coucher local. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est de pas réduire une rencontre, un coup de cœur, un désir, à une simple question de passeport ou de fantasme exotique. Et à l'arrivée, c'est pour le meilleur. Au lieu de prendre la personne pour ses origines, on la prend pour son entièreté. Ce qui, on sait que généralement, est plutôt une bonne idée. Et puis c'est un peu en fait le même débat que dans l'humour. Il y a 15 ans, on pouvait faire des blagues sur les accents, aujourd'hui on est passé à autre chose, et l'humour en est sorti grandi. La ringardisation du tableau chasse permet de passer du safari à autre chose, et le sexe en sort grandi.
De toute manière, Maya, est-ce qu'on peut vraiment voyager grâce au sexe ?
Bah, plus vraiment. Avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est difficilement comparable avec le fait d'aller au restaurant chinois ou dans une crêperie bretonne. Les préférences individuelles sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus signifiantes que les préférences régionales. Il faut dire que le monde du sexe s'est globalisé depuis longtemps, sous l'influence du porno, mais aussi sous l'influence des médias de masse que sont Hollywood ou Internet. Je suis pas en train de dire qu'on est uniforme et qu'il y a une seule manière de coucher avec quelqu'un. Pas du tout. Mais aujourd'hui, pour vivre des expériences passionnantes et uniques, on peut plus se contenter d'être en chasse et de traiter nos amants comme des simples trophées. On peut plus se contenter d'une logique de prédation et de collection. Paradoxalement, il aura peut-être fallu en passer par le global pour aboutir à plus d'unique et plus d'humain.
Grégory Cohen, qui vous a écouté avec énormément d'attention.
Religieusement, même.
Oh, religieusement, non, merci.
La chronique sexe de Maya Mazorette à réécouter seule à deux ou à plusieurs sur l'appli France Inter. Merci à tous, merci Christina, Thibault, Julien, Maya, mais également Sandrine Mercier de la revue Air. David Habitant, je rappelle votre site thema.archi. Et merci Erwan Taillard, sans pépite pour découvrir la France. C'est publié chez Grund. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron, Christophe André et André Manoukian. Lundi dans Grand Main Vous Fasse, comment se mettre ou se remettre à la course à pied.